8h23, la revue de presse des journaux français avec Frédéric Couteau. Bonjour Frédéric.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, mais quel foin !
Oui, mais quel foin, c'est le grand titre du Parisien. Des milliers d'agriculteurs en tracteur bloqueront aujourd'hui Paris pour obtenir des aides financières ainsi qu'un allègement des normes. Opération coup de foin, renchérit Libération. Les éleveurs veulent bloquer Paris pour obtenir de nouvelles aides, constate Le Monde. Le monde paysan vient crier sa colère à Paris, relève Le Figaro. Agriculture, les pistes d'une réforme positive, la croix. En effet, s'interroge le quotidien catholique, comment la collectivité nationale peut-elle aujourd'hui apporter son soutien à la profession agricole? Une première étape est de l'aider à sortir de son état de crise. Cela passe certainement par des aides au désendettement. Trop d'exploitations sont étouffées par des charges financières. Il faut aussi lui apporter un appui pour que la valeur ajoutée de l'agriculture ne soit pas accaparée par l'aval de la filière, c'est-à-dire les entreprises de transformation et de distribution. Enfin, poursuit la Croix, il faut œuvrer pour réduire les distorsions de concurrence entre les différents pays de l'Union européenne. Cependant, pointe encore Le Journal, cela ne dispensera pas tous les acteurs de l'agriculture d'une réflexion sur l'avenir. Il faut s'interroger sur les impasses de la course à la productivité en France comme en Europe, car celle-ci, poussée à l'extrême, se traduit forcément par une baisse de la qualité. Or, relève la Croix, l'image de marque de la France dans le domaine de l'alimentation, comme dans d'autres domaines, est associée à des produits haut de gamme, bien davantage qu'à la très grande diffusion. En outre, on sent monter dans la population un souci croissant pour une alimentation saine. Encore faut-il que cette même population admette que la qualité a un prix et rabote un peu sur d'autres dépenses afin de mieux se nourrir et de faire vivre mieux ceux qui la nourrissent. Libération est absolument sur la même ligne. Il existe un autre modèle agricole, écrit Le Journal, fondé sur la proximité avec les consommateurs, sur la qualité plus que sur la quantité, respectueux de l'environnement et soutenable sur le long terme. Un modèle qui n'est pas une aimable utopie défendue par quelques écolos rêveurs ou des bobos inconséquents, relève Le Journal, mais par d'autres syndicats agricoles, par une armée d'experts et par les responsables de grandes organisations internationales. Un modèle qui exige une transition longue et organisée, tant il est vrai qu'on ne peut sacrifier les agriculteurs d'aujourd'hui au projet de demain, mais un modèle qui s'imposera inéluctablement parce qu'il est en adéquation avec le souci écologique, la limitation des souffrances animales et l'exigence de qualité qui anime de plus en plus les consommateurs. Un plan de sauvetage qui ne tiendrait pas compte de ces réalités nouvelles, conclut Libération, ne sauverait rien du tout.
Alors comment arriver à s'en sortir face à la concurrence, face à la mondialisation, face aux contraintes des normes, face au coût de la main d'œuvre?
Le Parisien prend l'exemple de ce maraîcher près de Lyon qui a justement fait le choix de la qualité et de la proximité. Il s'appelle Frédéric et c'est l'un des derniers producteurs français de haricots verts, frais et cueillis à la main. Dans mon secteur d'activité, explique-t-il, il y a deux problèmes majeurs, la main-d'œuvre et les contraintes phytosanitaires. Face à la concurrence du Kenya ou du Maroc, où la main-d'œuvre coûte 10 fois moins cher, je ne fais pas le poids. Ici, on paye 12 euros de l'heure, charge comprise. Chaque kilo de haricots cueillis me coûte 4 à 5 euros. La main-d'œuvre, c'est 60 à 70% du prix de vente final. Pour ce qui est des normes phytosanitaires, poursuit le maraîcher, la France est le pays le plus exigeant, c'est bien, mais ça nous coûte cher et on ne nous laisse pas le temps de nous adapter. En revanche, pas de normes contraignantes au Kenya ou au Maroc. Pourtant, les Français mangent aussi ces produits. Alors, face à ces contraintes, Frédéric a trouvé un début de réponse, relève le Parisien. En 2012, à quelques-uns, nous avons créé une maison des producteurs, explique-t-il. Aujourd'hui, 35 producteurs et éleveurs de la région y vendent leurs produits, viande, foie gras, miel, produits laitiers, fruits et légumes. Les haricots de Frédéric y sont affichés à 7 euros le kilo en moyenne, un prix élevé, mais qui trouve ses clients, relève le Parisien, conscient que derrière ces légumes, il y a des emplois en France.
À la une également ce jeudi, le nouveau ministre du Travail. Personne ne l'attendait à ce poste, sauf apparemment François Hollande. Myriam El Khomri, la benjamine du gouvernement, 37 ans auparavant secrétaire d'État à la ville, succède à François Rebsamen.
C'est la surprise du chef, s'exclame Libération. Certes, en la choisissant, le couple exécutif a misé sur une carte jeune, symbole de l'intégration. Elle est née à Rabat, d'une mère bretonne et d'un père marocain. Élue d'un quartier populaire, le 18e arrondissement de Paris, et a promu une socialiste qui a fait ses preuves au secrétariat d'État à la ville depuis son entrée en août 2014. Mais, pointe Libération, L'ancienne porte-parole d'Anne Hidalgo durant la campagne municipale n'est pas une spécialiste des questions d'emploi et de droit du travail. Le Figaro remarque, en effet, pour sa part, que cette nomination surprise a ouvert un angle d'attaque à la droite qui reproche au chef de l'État de faire passer ce ministère au deuxième plan en n'ayant pas choisi un poids lourd politique. Mais au sein même du gouvernement, pointe encore le Figaro, ce choix a surpris. Vous ne pouvez pas à la fois lancer des chantiers de réformes gigantesques et nommer quelqu'un qui ne connaît pas le dossier, s'agace un ministre. C'est de la com, de l'affichage, soupire encore un ami de Hollande. Comme Hollande, Myriam El Khomri est d'un tempérament optimiste, ironise la Charente Libre. Ça tombe bien, elle va trouver sur son bureau des dossiers tous plus insolubles les uns que les autres. Il lui faudra les régler avec des syndicats chagrins, un patronat buté et une majorité rebelle, le tout sans faire de vagues dans la rue. Macron et Valls sont là, bien évidemment, pour l'aider. Enfin, l'Alsace est quelque peu sceptique. La benjamine du gouvernement Valls symbolise désormais le plus grand défi de la fin du quinquennat de François Hollande, à savoir l'inversion de la courbe du chômage, promise depuis 2013, mais sans cesse repoussée. Reste à savoir, et c'est en cela que son inexpérience est problématique, si Myriam El Khomri pourra véritablement peser dans les décisions, sans parler des relations jamais simples avec les syndicats et le patronat. Non, décidément, conclut l'Alsace, non, ce n'est pas vraiment un cadeau que François Hollande a fait à Myriam El Khomri.
C'était la revue de presse des journaux français. Frédéric Couteau, merci, à retrouver sur RFI.fr, évidemment.